Bienvenue ici. Ici, avec vos pieds. Ici, avec vos oreilles. Avant de commencer la balade, prenez le temps de régler votre volume sonore.
Why don't you print your name? Right next to it.
Ne vous coupez pas complètement de l'environnement sonore qui vous entoure. Vous devez pouvoir entendre clairement ma voix, mais aussi une voiture qui passe, ou la voix de quelqu'un qui aimerait vous parler. Vous y êtes ? Alors votre écoute va pouvoir se mettre en marche. Au cours des premières minutes, vous allez entendre des pas. Essayez de caler votre rythme de marche sur ces pas. Ils vous donneront le tempo de la promenade. À tout à l'heure.
Chers promeneurs, vous avez passé une heure en compagnie d'habitants du quartier. Nous allons marcher ensemble, dans les rues, le long des berges, au milieu des voitures ou dans la nature. Vous êtes face à l'usine Rivoire et Carré. Regardez-la de là où vous êtes.
Rivoire et Carré pour moi. C'est une partie de ma vie parce que j'ai rencontré ma femme là-dedans. Mais moi, j'ai commencé comme manutentionnaire et j'ai terminé ma carrière comme agent de maîtrise. J'étais au service de conditions de main. Conditions de main, c'est-à-dire le paquetage.
Avancez maintenant vers le carrefour. À l'angle de la rue de Vienne, il y a un café. N'hésitez pas à monter sur le petit perron en béton du bar. De là, vous verrez l'usine entre les arbres.
C'est une belle usine, toute moderne. Elle est sortie de terre en 1930. En 1948, nous étions 648 employés, entre hommes et femmes. Je précise qu'il y a beaucoup de gens du quartier qui travaillaient là, vous voyez. Et à la fermeture de l'usine en 2003, ils étaient plus que 120.
J'ai découvert l'usine Rivoire et Carré en arrivant sur Marseille en 2000. Donc à l'époque, de chez moi, j'entendais le ronron des machines-outils de l'usine. Voilà, un petit bruit de fond, pas désagréable. Et en 2003, l'usine a fermé.
Et là, on compte faire, si c'est possible, une médiathèque. Et là, il doit y avoir aussi une caserne de marins-pompiers. Disons que pour moi, Rivoire et Carré, je l'ai toujours dans le cœur.
Voilà, alors ce qui est intéressant maintenant de voir sur le site Rivoire et Carré, c'est donc de constater qu'il y a une partie de l'usine qui clairement est désaffectée, qui sert d'entrepôt. C'est la partie la plus belle, c'est le L, celui qui fait face aux collines, qui est au croisement du boulevard Ekel, avenue de Vienne en face, puis le boulevard de Saint-Loup. Cette partie-là, c'est ce que les habitants ont réussi à bloquer, c'est sanctuarisé, c'est le site du futur pôle culturel, de la future médiathèque.
Bien. Vous allez monter la rue de Vienne pour arriver à la cité Michaelis, c'est tout droit.
Et puis, je dirais que la moitié du site est occupée par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole. Donc, la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole n'est pas propriétaire du site, c'est la ville de Marseille qui en est propriétaire. Et donc là, c'est peut-être bien de voir qu'il y a deux institutions qui n'ont pas les mêmes compétences. Donc en fait, la ville de Marseille, par exemple, a pour compétence la culture. Donc elle est propriétaire du site, elle a pour compétence la culture, donc elle est à même de créer ce pôle culturel. La communauté urbaine, c'est en fait 18 communes. En tout, ça fait 1 million d'habitants. Et donc la compétence, c'est la gestion, moi, je dirais, des flux, c'est-à-dire les déchets, l'eau, les transports, la voirie, mais aussi la RTM, hein, les transports publics. Voilà, donc c'est un site alors qui revit, parce que sur Rivoire et Carré, il y a les bureaux de la propreté urbaine, donc communauté urbaine, des ateliers de la voirie, toujours communauté urbaine, des ateliers aussi de réparation de toutes les petites balayeuses. Et du coup là, ça refait de l'activité. Donc, pour situer un peu le bar de l'arrêt qui fait face à l'usine, juste au coin, en 2004, quand on a commencé cette mobilisation citoyenne habitante, le restaurant ne marchait plus parce qu'il n'y avait plus d'activité sur la vallée, dans ce périmètre. Alors la première fois qu'il a fonctionné, c'est avec le collectif médiathèque. Le jardin était en friche, mais c'est les copains qui ont défriché. Et il y a eu un concert de musique classique dans le jardin avec les élèves de Jean Perrin, enfin les collègues, les profs. Et voilà, et c'était très très bien. Et maintenant, ça remarche à nouveau. Il y a beaucoup de salariés de Marseille-Provence Métropole donc, qui travaillent à nouveau là sur Rivoire et Carré, qui viennent manger, déjeuner le midi. Et donc voilà, ça serait bien que sur ce site, on puisse concilier ça en fait, c'est-à-dire... une usine qui continue à servir, ces locaux là ils servent, et puis un pôle culturel, et puis les marins-pompiers, on en a besoin, pareil, c'est un projet qui bouge pas, donc affaire à suivre.
La cité Michaelis, c'est tout droit.
Nous vivons dans une cité qui a été classée au patrimoine du XXe siècle, cité construite par un architecte marseillais qui est Gaston Castel. Cette cité date de 1934. Elle fait partie des premiers travaux de M. Castel sur l'habitat collectif. Elle porte le nom de Eugène Michaelis, qui était un des présidents des HBM.
Vous voyez la cité ? À son entrée, des conteneurs gris, rayés de bleu, de jaune et de vert. Et derrière les conteneurs, les jardins. Vous allez les longer. Prenez votre temps. Flâner, si vous voulez.
Cette cité a la particularité d'avoir des bâtiments de petite taille où la majorité des locataires est de 12. Chaque palier dessert 2 appartements ou 3 appartements. C'est une cité en forme d'escargot et qui est très arborée. À l'origine, elle s'appelait la cité jardin de la pomme, puisque la cité Michaelis n'est pas un quartier, puisque nous n'avons pas d'église, mais appartenait ou appartient, personne ne sait vraiment, au quartier de la Pomme. Quartier de la Pomme dont la limite se situe en face Rivoire Carré. Mais il faut savoir aussi que le quartier de Saint-Loup s'arrête à côté de Rivoire Carré et le quartier de la Val-Barelle de l'autre côté, dont nous ne savons pas à qui nous appartenons en fait.
C'est un jardin de 35 parcelles qui réunit les habitants, les écoles, les environs. Donc toute la cité, tous les habitants qui souhaitent jardiner ont une parcelle qui est attribuée par un porteur qui s'appelle Lamieux. Ils ont un forage, donc on a fait un forage, 13 habitats ont fait un forage pour récupérer de l'eau de source. Et donc ça rayonne sur tous les jardins.
Bonjour. Bonjour.
Du coup, il y a vraiment du rassemblement, il y a du lien social. Et les gens, voilà, ils apprennent à se connaître. Ils apprennent à se connaître, ils apprennent à partager. Et je pense que ce jardin permet de se rencontrer aussi, partager des choses. Alors qu'ils ne l'auraient peut-être pas fait avant. Et oui, pour moi, c'est du vrai lien social. Je dirais que le pari est gagné là-dessus. Donc, moi, en tout cas, pour 13 habitats et pour un gestionnaire comme moi, je trouve que le pari est gagné. Maintenant, voilà, c'est faire un deuxième forage et rayonner aussi sur toute la cité.
Ah ouais, si on ne gratte pas, la terre après, elle n'est pas bonne. Alors, si on gratte, puis ça fait des belles tomates.
Voilà. Au bout des jardins, sur la droite, monte une rue avec des barrières vertes. Allez-y. Nous allons vers la colline où nous montons.
Par rapport à d'autres cités, c'est calme quand même. Ah oui, c'est calme. Il n'y a pas de... Donc c'est calme. La CLCV, dernièrement, elle a fait venir des médiateurs, vous voyez, pour qu'ils attrapent un peu les jeunes, là, qu'ils soient un peu tranquilles l'été, parce qu'il y a pas mal de retraités dans le coin.
Une fois passées les barrières, juste avant de traverser la rue, pour continuer la montée, regardez sur votre gauche et cherchez des yeux le mot « lavoir ». Il est inscrit sur une façade. On va vous en parler.
Laissez-moi vous dire une chose, c'est que lorsque la cité a été créée, en 1934, il y avait beaucoup d'employés de tramway. Et puis il y avait des gens qui travaillaient chez Rivera Carré aussi, des hommes et des femmes. Il y en avait pas mal. Puis un peu plus loin, vous avez Coderre. Coderre, ça a fermé aussi. Là, ça employait 1500 ouvriers. Mais disons que le quartier est très bien. Il y a un club de ballon, l'US Micheliste, qui a remporté pas mal de palmarès, vous voyez. Ça, c'est très bien. Ensuite, nous avons le... Ça s'appelait le boxing avant. C'est-à-dire qu'à l'origine, ça s'appelait le lavoir. Et là, il y avait les ménagères qui avaient le linge.
Reprenez votre chemin, tout droit vers la colline, en passant devant le stade.
Ici, dans cette cité, il y a 277 logements. Il n'y a pas de machine à laver. Et on allait retenir. Et les lavandières lavaient le linge. Et ensuite, il étendait au premier étage en haut. Il y avait un étendage fabriqué à cet effet, vous voyez. Mais il n'y avait jamais de vol de linge, rien du tout. Hein. Ça, je peux vous l'affirmer. Bon, après, il y a eu les machines à laver, ça s'est terminé. Et puis, il s'est monté un club de boxing. Après, bon, ça s'est terminé. Et la CLCV a pris le boxing que nous, on a fait baptiser maintenant le lavoir. Alors là, à l'intérieur, la bibliothèque, si les gens meurent des livres. Le mardi et vendredi, ils vont travailler les gosses aux études. Maintenant, s'il y a des problèmes du quartier, les gens, ils viennent nous voir, vous voyez.
Vous allez arriver au bout du stade. Sur votre droite, un portillon, passez-le.
I'll be up to date when I can shimmy like my sister Kate. I'm shouting, shoot me like my sister Kate, oh boy.
Alors cette cité pour moi est très importante, j'y suis née, ma mère y est arrivée quand elle avait 6 mois. Cette cité c'est mon cocon et je m'y sens bien. Alors c'est vrai que comme beaucoup, bon, des fois j'ai envie d'en partir, de m'en éloigner, mais bon, ben, c'est un peu comme quand je m'éloigne et que je ne sens pas l'iode de la mer, ça me manque et j'ai envie de revenir.
Prenez le chemin sur la gauche, il monte, il y a des barrières rouges et blanches.
Par l'activité que j'ai eue au sein du collectif Médiathèque et la défense de mon quartier, je suis très attachée à ma ville, je suis très attachée à mon arrondissement. J'ai œuvré pendant des années et je continue aussi pour faire connaître aux Marseillais les quartiers Est Marseille. On est quand même des quartiers à certains moments un peu oubliés. On est à certains moments un peu, on va dire, un peu les poubelles voilà, de Marseille. Donc je me bats. Je me bats avec Riviculture pour notre fleuve côtier, pour le faire connaître aux habitants, pour le faire reconnaître, pour faire reconnaître la valeur du des paysages qu'on a, le Mont Saint-Cyr, la Barrasse avec son parc. On peut avoir une vie très riche, on n'est pas simplement une vallée industrielle où une bonne partie de la population est au chômage. On a des valeurs et je crois qu'on a des choses à montrer et à faire reconnaître.
Monter le chemin.
Voilà, donc ici on est sur un cheminement piétonnier, mais en même temps c'est une voie de la ville de Marseille, hein, vous voyez écrit sur le panneau 11e arrondissement. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un des chemins de traverse en fait de cette vallée de l'Uvonne qui permet de la découvrir autrement que par le grand boulevard qui longe le fond de vallée. Et qui est évidemment beaucoup plus bruyant que l'endroit où l'on se trouve actuellement.
Montez le chemin, arrivez en haut, vous verrez sur votre droite, au sol, le tracé du canal. C'est lui que nous allons suivre.
C'est important de marcher le long de ce chemin, parce qu'on constate beaucoup trop aujourd'hui à Marseille, et sans doute dans d'autres villes aussi en France, que des... certaines voies publiques eh bien, sont fermées par certains résidents qui s'accaparent un petit peu quelque part le territoire public. Et pour que ces cheminements piétonniers restent praticables, restent vivants, c'est important justement de cheminer, d'y marcher régulièrement pour que ça reste voilà, accessible à tous. Voilà, donc nous venons de rejoindre le canal de Marseille. Ce canal que vous voyez fait en fait tout le tour de Marseille. Donc on le retrouve aussi bien dans les quartiers nord, dans les quartiers est, que dans les quartiers sud. Donc c'est un lien entre finalement les différents quartiers de Marseille.
Nous suivons le canal.
Y compris d'ailleurs on le retrouve aussi dans le centre-ville, puisque ce canal de Marseille a différentes ramifications. On le retrouve... au palais Longchamp, avec effectivement ce palais qui est un monument édifié aussi en hommage à la gloire de l'eau. Et c'est vrai que l'eau à Marseille a plusieurs dimensions. Alors, on sait que les Marseillais ne sont pas des marins. Trop souvent, malheureusement, la Méditerranée reste qu'un décor, alors que Marseille, on le sait, doit malgré tout beaucoup à son port, donc à la Méditerranée. Et l'eau à Marseille, c'est aussi, bien sûr, l'Uvonne qui coule, ce fleuve oublié, qui traverse les quartiers est de Marseille, qui nous vient de la Sainte-Baume et qui se jette dans la Méditerranée. Et enfin, il y a une troisième dimension de l'eau à Marseille, là aussi, qui est trop souvent oubliée, négligée, et qui est justement ce canal de Marseille. Canal de Marseille, on devrait plutôt dire presque canal des Alpes, puisque l'eau qui coule là nous vient de la Durance, nous vient de l'Ubaye. Donc c'est l'eau des Alpes que, qu'on retrouve ici. Et si Marseille, dit-on, a une eau de si bonne qualité, c'est parce que effectivement l'eau des Alpes est de bonne qualité.
Au bout du canal, vous voyez la Cité Blanche ?
On peut effectivement, en plusieurs quartiers de Marseille, cheminer là aussi le long de ce canal. Alors certains tronçons sont ouverts au public, il y a une tolérance effectivement qui est accordée par la société gestionnaire. Et d'autres tronçons sont fermés, bon là aussi par des grilles, par des portails. Alors on ne comprend pas trop pourquoi certains tronçons sont ouverts et d'autres pas. Et là aussi, c'est vrai que ça fait penser à Marcel Pagnol qui déjà, enfant, lui aussi, longeait ce canal de la Barrasse pour rejoindre la Treille sur un parcours un peu bon, qui est difficile de retrouver exactement aujourd'hui puisqu'il y a aussi la part d'imaginaire qu'on retrouve dans les livres. Mais voilà, c'est aussi un moyen agréable de découvrir Marseille que de longer ce canal.
Longer le bâtiment par son parking. Et on traverse la cité en la descendant, en suivant la route qui zigzague, en prenant les escaliers. Faites comme vous voulez, on se retrouve en bas. Si vous avez un doute, la sortie de la cité est plutôt vers la gauche.
En fait, le principe du canal, c'est de passer en courbe de niveau, grosso modo, avec une pente très 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 faible, mais on peut dire qu'il est presque plat quand on le voit à l'œil. Il passe à flanc de colline et donc il irrigue toutes les terres qui sont en aval. Et j'imagine qu'à l'époque, quand on a construit ce canal, les gens qui avaient des terres en amont du canal, ils n'ont pas dû être contents, quoi, parce que certains ont eu leurs terres traversées par le canal, la partie qui était en dessous était irrigable, la partie qui était au-dessus ne l'était pas. Et de ce canal partent des petits canaux secondaires qui sont, je dirais, normalisés. Donc, ils sont bétonnés, ils ont une section qui est constante. Et ces canaux traversent, toujours par gravité, traversent toutes les propriétés qui peuvent se trouver sur leur passage, en les desservant le plus efficacement possible. Donc ces canaux, en gros, ont une section de 30 cm sur 30, 30 sur 30, une section carrée. Et quand ils traversent une propriété, il y a un endroit où le propriétaire, le paysan du coin, peut, en ouvrant une martelière, peut amener l'eau, dériver l'eau chez lui. Il ouvre, il peut la mettre en travers et l'eau va chez lui. Quand il a fini de se servir de l'eau, il change la martelière de place et l'eau continue son chemin et va irriguer la campagne qui est plus bas. Et à une époque, cette eau, on ne s'en servait pas n'importe comment. Et chaque paysan avait droit, en fonction de la surface de sa campagne, probablement en fonction aussi de ce qu'il était prêt à dépenser pour avoir de l'eau, donc de sa demande, il avait droit à un certain temps d'eau à intervalles réguliers. Printemps, quand on commençait à mettre des choses en terre, on avait besoin d'eau. Et chaque paysan recevait, de la part du service des eaux, et qui gérait le canal, recevait un calendrier où il était noté les jours où le paysan en question avait droit à son eau, avec des heures. Et alors, c'était tous les 4 jours, il fallait contenter tout le monde. Et donc, les heures étaient réparties dans la journée. Et ça pouvait être 4 heures du matin, 11 heures du soir. Alors, quand c'était la nuit, ben, les paysans allaient irriguer avec une lampe de poche. Et comme il faisait nuit et qu'on ne voyait pas trop ce qui se passait, ben, ils y allaient à deux. Et puis, on lâchait l'eau dans une raie de tomates, supposons, de 30-40 mètres de long. Et puis, il y avait quelqu'un qui était à l'autre bout. Quand il voyait arriver l'eau, il faisait un signe avec la lampe de poche. Et puis, celui qui était à la tête de la raie changeait l'eau de raie et arrosait une autre raie.
Vous allez arriver à la sortie de la cité, face au stade. Là, prenez sur votre gauche.
Et cette eau, donc, il fallait un peu... Parfois, il y avait un peu des disputes ou il y avait un peu des abus. C'était un peu supervisé, c'était un peu gendarmé par un employé qu'on appelait l'égadier. Donc l'égadier, c'était quelqu'un, tous les 4 jours, qui suivait la bonne marche de l'irrigation de 4 ou 5 ou 6 campagnes sur une journée, en faisant respecter les horaires.
Enfin, c'est moi qui vais vous apprendre quelque chose. Piqueur, ça veut dire que je surveille le canal.
Avec une pique?
Mais non, avec cette clé à thé et ce petit carnet noir. Avec la clé, j'ouvre et je ferme les prises, j'en contrôle le débit. Si je vois une fente dans la berge ou un petit pont qui devient faible d'airain, je le note dans mon carnet et le soir, je fais mon rapport.
Ça n'a pas l'air bien fatigant.
Oh non, pour ça, hein, ça n'est pas le bagne.
Et alors cet égadier, un jour il était sur les campagnes de Saint-Loup, mais la veille il pouvait être sur les campagnes de la Val-Barel ou de Saint-Marcel, et puis le lendemain il pouvait être sur les campagnes de Saint-Tron ou Sainte-Marguerite. Et alors à l'époque on ne se déplaçait pas aussi facilement qu'aujourd'hui, on se déplaçait beaucoup à pied ou en vélo ou...
Nous allons au parc Saint-Cyr. Pour y aller, on passe devant le centre médical Marcel Pagnol.
Et pour pouvoir suivre son canal qui irriguait toutes les propriétés,
aller tout droit,
il avait accès à toutes les propriétés. Personne ne pouvait s'opposer à ce qu'il traverse une propriété. Et chaque propriété... à l'endroit où le canal arrivait dans la propriété, il y avait une petite porte dont il avait la clé et il pouvait passer, suivre ainsi son canal de propriété en propriété en empruntant cette petite porte qui était vraiment sur le canal ou juste à côté.
Et voilà mon canal. Il a l'air de rien comme ça. C'est grâce à lui qu'à Marseille, on peut se laver la salade et les pieds.
Allez tout droit. Juste après l'arrêt de bus, il y a des grilles, c'est l'entrée du parc. La route pour entrer dans le parc Saint-Cyr. La Bastide vous accueille. Longez-la. Nous allons traverser le parc en le descendant. Prenez l'allée sur la gauche de la Bastide. On se retrouve en bas, à la grille. Attendez-moi.
Voilà, alors le parc Saint-Cyr, je suis sûr que beaucoup d'anciens de Saint-Loup n'y sont jamais rentrés parce que c'était fermé, c'était une propriété privée. Et bon, j'ai découvert ça sur le tard. Et alors c'est un parc, visiblement un parc avec une belle demeure, visiblement un parc d'agrément. Alors que... Il y a certainement d'autres propriétés comme ça dans le quartier. Généralement, ces propriétés restaient un peu mystérieuses parce que c'était souvent entouré de murs un peu hauts. On ne savait pas trop ce qui s'y passait. On voyait juste dépasser la végétation. On savait qu'il y avait des beaux arbres et on voyait de loin les demeures un peu cossues quoi, qui s'y trouvaient. Traverse par Saint-Cyr, qui aujourd'hui est aménagé pour le public. Il y a, les jardins sont bien entretenus, les pelouses, les arbres taillés. Enfin, c'est un îlot de verdure dans le quartier, dans un quartier qui est très peuplé, qui s'est très peuplé au fil du temps et surtout à la fin du XXe siècle. Et ce parc arrive jusqu'au boulevard de Saint-Loup, où il y a une entrée un petit peu majestueuse. C'était un peu la seule chose qu'on voyait de l'extérieur. On devinait que ce domaine était quelque chose d'un peu cossu et sophistiqué, quoi, par rapport à ce qu'il y avait alentour dans le quartier. Le boulevard de Saint-Loup, ça n'est jamais que l'ancienne nationale 8 qui va vers Toulon. Et par cette route se faisait tout le trafic vers Toulon et vers Nice, au départ de Marseille, du temps où il n'y avait pas l'autoroute Est. Et l'autoroute Est, en fait, ne date jamais que du début des années 60. Donc entre 60 et 65, quelque chose comme ça. Et sur ce boulevard de Saint-Loup, donc on peut imaginer qu'à l'époque, le trafic était moindre, bien entendu. Mais il y avait des rails, il y avait le tramway. Voilà, c'était un axe pour rentrer dans Marseille très, très important.
Tout le monde est là ? Nous allons prendre le boulevard de Saint-Loup sur la gauche, en direction du village. C'est parti.
J'habite donc à Château Saint-Jacques, donc du haut de mon cinquième étage. C'est vrai que j'ai un panorama sur toute cette vallée de l'Uvonne. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivé, je voyais la cheminée de l'usine Rivoire et Carré. Je vois toujours bien sûr la chaîne de l'étoile, le Gard Laban aussi. C'est vrai que quelque part on est aussi au pays de Marcel Pagnol ici. Et
sur le boulevard, dans quelques minutes, vous allez voir un Intermarché. C'est là que nous allons.
C'est vrai qu'en 2004, lorsque Sylvie Nespoulous, que vous avez déjà rencontré, a lancé un petit peu un mouvement collectif autour du devenir de la friche Rivoire et Carré, de cette usine Rivoire et Carré qui malheureusement venait de fermer. Habitant à proximité, j'ai effectivement rejoint ce collectif d'habitants qui est devenu collectif médiathèque et qui, quelques années plus tard, en 2008, collectif qui a donné naissance à l'association Riviculture. Riviculture, il s'agit de poursuivre la mobilisation née autour du collectif médiathèque pour faire vivre la culture dans les quartiers est de Marseille, mais poursuivre cette mobilisation autrement, pas autour d'une action plaidoyer en faveur de la création d'une médiathèque et plaidoyer que l'on a porté pendant longtemps, qu'on continue à porter auprès de la ville de Marseille. Mais cette mobilisation en faveur de la culture, pour faire vivre la culture dans les quartiers de Marseille, avec l'association Riviculture, on a choisi de la poursuivre au travers d'une démarche de projet. Et cette démarche de projet, ça nous a amené à découvrir le patrimoine de ces quartiers est, parce que la culture, c'est aussi le patrimoine. Et comme je le disais tout à l'heure, pour faire connaître ce patrimoine, le valoriser, le mieux, c'est de les découvrir à pied, en marchant. Et bon, moi, c'est vrai que j'avais un petit peu une prédisposition pour la marche, puisque je marche depuis que je suis gamin avec mon père en famille. J'ai commencé à marcher dans les montagnes, dans les Alpes, comme beaucoup de Marseillais aussi, dans les Alpes du Sud, dans la vallée de l'Ubaye ou dans le massif des Écrins. Et j'ai poursuivi à Marseille, alors d'abord dans le centre-ville de Marseille, lorsque encore étudiant, il y a une vingtaine d'années, j'avais découvert la géographie urbaine. Et puis aujourd'hui, donc ces marches du coup urbaines, je les poursuis dans les quartiers est de Marseille. Alors marche urbaine, pas tout à fait, puisque je disais, on est dans ces quartiers est de Marseille, c'est aussi un espace frontière entre ville et colline.
En ce temps-là, j'étais encore un petit garçon, mais j'avais rencontré l'amour de ma vie, les collines de Provence. Un été merveilleux qui avait passé comme un rêve. Mais les vacances étaient finies. Je savais déjà que je ne supporterais pas d'attendre une année, toute une année, pour retrouver mes chères collines. Il me fallait trouver un moyen. J'étais prêt à tout.
Traversez la rue, prenez la grande descente. Nous allons au parking qui est derrière le centre commercial.
Les marins connaissent l'appel du large. Moi, je venais de ressentir l'appel des collines. Oui, elle m'appelait auprès d'elle, mes chères collines.
Garlabam, Tahomé, Tête Rouge, je vous salue.
Vous allez longer le côté de l'Intermarché pour aller au parking, jusqu'au fond du parking.
Mon amour des collines triompha de la barbarie mathématique. 103 jours, 148 320 minutes et 8 899 200 secondes plus tard, nous étions de retour à la Bastide enchantée.
Vous voyez l'herbe ? Le talus, tout là-bas ? Eh bien, allez-y.
La pêche, c'est un moment privilégié de décompression, de communion avec la nature. Et comment dire, ça fait 7-8 ans que je suis à l'association. Je ne connaissais pas du tout l'Uvonne dans Marseille. Mais je peux vous assurer qu'il y a vraiment des coins qui sont très agréables. Et en plus, quand on aime la pêche, dans l'Uvonne, il y a du poisson. Et j'ajouterai une chose, pour beaucoup, le poisson, ça se mange obligatoirement. Mais où il est le plaisir ? Le premier des plaisirs, c'est bien d'être dans la nature et on peut y arriver dans Marseille même. Même si le béton n'est pas loin, il y a des coins qui sont absolument magnifiques. On peut prendre du poisson, on le relâche et on le retrouvera la semaine d'après. Venez à la pêche, il y a des coins magnifiques sur les bords de l'Uvonne. Il y en a de magnifiques tout au long de l'Uvonne.
N'hésitez pas, montez sur le talus, la rivière coule en contrebas. C'est l'Uvonne.
Donc là, on a au fond, on voit de gros chevesnes qui arrivent à faire plus d'un kilo, quelques truites qui restent après les lâcher. On lâche à peu près 1200, entre 1200 et 1500 kilos de truites, ça fait à peu près 4000 truites par an. Donc on a un pisciculteur qui vient d'Ille-sur-Sorgue, qui nous amène des truites. On commande des truites, 80, 100 kilos de truites tous les 15 jours à peu près, tant qu'il y a de l'eau sur l'Uvonne. Et on fait des lâchers pour les pêcheurs, à peu près tout au long de l'année, quoi, hormis l'été où c'est trop difficile, il y a trop peu d'eau, et la truite a besoin d'eau courante, fraîche. L'été, c'est pas propice. Donc là, d'octobre jusqu'à mai-juin, on lâche à peu près toutes les quinzaines des truites.
Vous êtes sur le talus. Cheminez. Au bout du parking, vous pourrez descendre confortablement et prendre la rampe de sortie du parking pour arriver sur le boulevard.
On a les baux de pêche depuis un petit peu la Mande-au-Bagne, on va pas dire jusqu'à la mer, puisque l'Uvonne ne coule pas jusqu'à la mer, mais tant que l'Uvonne coule, on est susceptible de mettre du poisson. Le poisson se regroupe un peu plus dans les trous que dans les courants où il y a très peu d'eau, mais en fait on essaie d'étaler ça, que chaque pêcheur puisse trouver le plus près possible un petit peu de poisson. Chaque pêcheur, oui, a ses petits coins préférés. Ben là, le parc du Vieux-Moulin, c'est vraiment un très beau parcours qui fait plusieurs centaines de mètres. Donc c'est quand on veut marcher un petit peu, aller chercher le poisson, parce que bon, il ne saute pas tous les jours dans la musette. Mais on marche un petit peu, on voit un petit peu du paysage. On avait ce matin un moucheur de l'association qui ne connaissait pas la zone. Il a trouvé la zone tellement jolie qu'il va récupérer ces jeunes pêcheurs qu'il initie. Il va les récupérer cet après-midi et au lieu d'aller sur Aubagne, il va venir ici au parc du Vieux-Moulin. Bon, maintenant, il y a un grand projet là, c'est de créer un contrat rivière. Alors, un contrat rivière, difficile à expliquer en trois mots, mais globalement, toutes les communes riveraines de Luvonne vont se réunir pour essayer de faire vivre Luvonne, de faire vivre des projets, de la qualité des eaux, du poisson aussi. Donc, l'association va être partie prenante. Donc là, on en est au balbutiement. Mais voilà, c'est parti et c'est intéressant pour tout le monde, pour tous les riverains. Essayer de redorer un petit peu le blason de Luvonne, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on peut le croire, et ce que le croient beaucoup de Marseillais, une espèce d'égout qui se déverse sur les plages du Prado. C'est pas l'eau de Luvonne qui va polluer les plages du Prado, c'est bien l'eau de ruissellement dans les rues lors des forts orages qui pollue ces berges, puisque ça se déverse dans Luvonne, les égouts étant saturés. Ça coule vers le point bas, et le point bas, c'est le bois.
Sortez du parking. Prenez le boulevard en direction de Saint-Loup, sur votre droite.
Au tout début de la création de l'association, on a eu la possibilité de proposer un projet nouveau commanditaire. Un projet nouveau commanditaire, c'est un principe qui existe depuis déjà plusieurs années, qui est proposé par la Fondation de France, qu'un groupe de citoyens, il faut que ce soit un collectif de personnes, qui ont un projet, et ce projet, il faut qu'il ait un intérêt général. Donc notre première intention, c'était de dire, on veut exister, on veut qu'il y ait un signal qui dise aux gens, on est là, on existe, venez nous voir. Et en fait, donc ce projet a été accepté par la Fondation de France. Et donc, on a été mis en rapport avec le bureau des compétences et désirs, qui est finalement le maître d'œuvre de la Fondation de France, ici dans notre région. On a travaillé sur l'idée, on s'est dit que finalement, plus que les quartiers, c'était peut-être ce fil directeur qui était le fleuve côtier Huvaune qui pouvait être l'objet du projet.
Prenez le boulevard en direction de Saint-Loup, sur votre droite.
Donc c'était beaucoup plus fort finalement travailler avec cet élément structurant du territoire. Donc le cahier des charges s'est élaboré autour de ça. Comment valoriser ce fleuve côtier, Luvonne, que les gens connaissent très mal ou qui est extrêmement, on va dire, méprisé. On y jette les poubelles, les caddies. Bon. Donc... on en est arrivé à décrire ce qu'on souhaitait, que cette œuvre dans l'espace public puisse montrer. Et quand on a établi ce cahier des charges, le bureau des compétences et désirs nous a fait la proposition, parce qu'eux connaissent toute une série d'artistes, de travailler avec des artistes qui ont une renommée internationale, qui s'appellent Lucie et Georges Horta, qui sont des plasticiens qui vivent dans la région parisienne. Et avec tous ces éléments-là, ils ont fait la proposition de créer les fées de Luvonne, qui s'inspirent de ces personnages dont on leur a parlé. Ils ont surtout retenu justement les personnages féminins. Et ils ont créé ces fées qui sont des fées contemporaines, en fait. Hein. Ce n'est pas la fée au sens du conte. C'est plutôt des personnages qui, aujourd'hui, vont protéger, défendre, agir en faveur de l'Uvaune, mais pas seulement, dans un esprit aussi de renouveau de la société, de changer un peu les pratiques qui, justement, sont peu respectueuses de la nature en général et d'un fleuve côtier comme l'Uvaune en particulier.
Vous allez rentrer dans le village de Saint-Loup.
En fait, on s'est dit qu'on pouvait faire coïncider cette présence des fées avec une de nos ambitions qu'on a découverte justement dans les autres actions de l'association, qui sont de réaliser des marches découvertes pour découvrir l'Uvaune, les berges. Donc notre rêve, parce que c'est un rêve, c'est de pouvoir créer un cheminement tout le long de l'Uvaune et de créer des circulations douces, ce qu'on appelle les trames vertes, trames bleues, parce qu'il y a aussi l'eau, arriver à avoir à réinstaller un rapport à la nature dans ces quartiers qui sont des quartiers très industriels, qui sont pas forcément toujours très agréables à parcourir.
Longez l'immeuble qui s'élève. Vous trouverez l'entrée du parc du Vieux Moulin.
Par petits bouts, on a identifié des endroits où on a l'impression qu'on est à la campagne. On oublie qu'on est en pleine ville, en plein Marseille. En plus, dans un quartier anciennement industriel. Le rêve, c'est effectivement de créer une promenade, une longue promenade le long de cette Uvaune. C'est un rêve parce que dans la réalité, peu de parcelles sont publiques. C'est beaucoup des parcelles privées et donc il faut avoir un accord, etc., avant de pouvoir aménager des berges. Ces cheminements tout le long de l'Uvaune, ben, peut-être qu'il y a un bon argument pour les défendre et pour inciter les gens à les désirer, c'est d'implanter plusieurs fées le long du fleuve. Et donc, le projet s'appelle le chemin des fées parce qu'on voudrait que les visiteurs aillent d'une fée à l'autre et découvre à chaque fois des petits morceaux d'Uvaune différents en attendant le grand chemin le long de l'Uvaune.
L'entrée du parc est sur votre droite, juste avant l'église. Vous voyez les grilles ? Franchissez-les. La fée, là, sur son piédestal, elle vous attend.
Je
On arrive à proximité de ces restes d'un bâtiment. On suppose que c'était un moulin. Et c'est là qu'on découvre cette fée juchée sur son piédestal pour voir aussi bien le cours de l'Yvonne que les arbres et que les visiteurs du parc. Et en fait, le choix d'implantation a été lié aussi à un projet un peu plus complet qui était de dire « il faut que cet endroit soit un lieu de rencontre ». Alors c'est vrai que déjà c'est un lieu où on peut s'asseoir, hein, les petits murets de l'ancien moulin nous permettent de nous asseoir, de nous installer. Lucie et Georges voulaient aussi y installer, aménager un peu ce lieu de rencontre. Et pour l'instant, on rentre dans cet ancien bâtiment du moulin pour s'approcher de la fée. Et ce parc, il est... on espère que cette fée, elle va attirer de nouveaux visiteurs. Aujourd'hui, c'est essentiellement les voisins qui viennent ici, soit pour les enfants, soit ce sont les étudiants du lycée Pagnol qui est juste à côté. Mais là, cette première fée implantée à Marseille, on espère qu'elle va voir défiler beaucoup de visiteurs et qu'à chaque fois qu'on fera des événements, il y aura de nombreux... comme les fêtes de l'Yvonne qu'on organise parfois dans ce parc, il y aura de nombreux visiteurs pour la saluer.
Voilà, c'est ici qu'on se quitte. Merci à tous ceux qui ont prêté leur voix à cette promenade, concoctée pour vous par l'association Rives et Culture. Réalisation et mixage, Nelly Fléchère, Tony Regnault. Vous voilà de retour ici. Vous pouvez retrouver d'autres promenades sonores sur le site www.promenade-sonore.com. Les promenades sonores sont un projet de Radio Grenouille Euphonia en coproduction avec Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture, avec le soutien de la SACD et du programme Service numérique innovant du ministère de la Culture et de la Communication.